enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
J'aimerais ce soir parler d'un fruit. Pas d'un fruit, une nectarine, ou un melon, ou une pêche, ou une pastèque, ou je ne sais. Mais un fruit qui nous est cité dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset... C'est ça, 22. J'ai entendu quand même quelques 22, hein. Galates, chapitre 5, verset 22. Et j'aimerais ce soir vous parler du fruit qui est la maîtrise de soi. Dans Matthieu, chapitre 12, verset 33, Dominique, écoute, dit Samuel... Il est dit qu'on reconnaît l'arbre aux fruits qu'il porte. Et je crois toutes et tous que vous êtes ce soir de beaux arbres devant le Seigneur. Parce que par la foi, je vois en vous de beaux fruits. Des fruits juteux, des fruits beaux à voir et bons à manger. Et j'espère qu'après mon message, eh bien, vous penserez encore porter de bons fruits. J'ai partagé mon message en trois parties. Premièrement, l'homme pêcheur, une maîtrise limitée. Deuxièmement, Jésus, celui qui vient d'être chanté, cet ami si tendre et si merveilleux. Il avait, lui, une maîtrise parfaite. Et en troisième point, Jésus, il veut devenir le maître de ta vie. Amen. Premier point, l'homme pêcheur, une maîtrise limitée. Lorsque vous décortiquez le mot maîtrise de soi, il y a le mot maître. Un maître à quelqu'un est quelqu'un qui a sous son service plusieurs serviteurs qui sont amenés à obéir à ses ordres. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 24, il est dit ceci, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alors quand il parle de mammon, dans cette partie des évangiles, il parle de l'argent. Quelqu'un disait que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Mais j'aimerais eh bien voir ce terme de maître dans la parole de Dieu dans un sens un peu plus large. Et de manière beaucoup plus large, la Bible nous dit de manière très claire que si Dieu n'est pas notre maître... Et la parole de Dieu, le code de la route, comme le dit si souvent Papa Jean, de notre fonctionnement ici sur terre, eh bien, nous avons alors un mauvais maître. Voyez-vous, de la même manière que lorsque vous conduisez une voiture, il vous faut, pour la conduire, pour la maîtriser, tenir le volant ou changer les vitesses. Vous n'avez, je pense, jamais essayé de faire 1000 km en voiture sans tenir le volant. J'ai peur que si vous essayez, le premier tournant, vous vous retrouviez soit dans un platane, soit dans un mur. N'essayez jamais. Mais il est évident que pour maîtriser sa voiture, eh bien, il vous faut tenir le volant, mettre les vitesses, changer de vitesse, etc. Il vous faut la maîtriser de manière à ce qu'elle puisse aller d'un endroit à un autre. Quand je parle de voiture et de maîtrise, ça me rappelle la fois, je crois vous l'avoir déjà raconté, où j'avais passé mon permis de conduire. Je crois là que mon moniteur était éprouvé dans sa maîtrise. La première fois que j'ai passé mon permis de conduire, j'étais bien tranquillement sûr de moi, assis dans la voiture, et je me disais, tu l'auras. 200 mètres plus loin, me voilà parti. J'arrive à un stop et je grille le stop. Ça commençait déjà très bien. Et puis le moniteur déjà faisait une drôle de tête. Il me dit, allez dans telle direction. Je prends une autre direction. Il dit, vous avez pas vu le panneau de direction? Écoutez, désolé, mais... Bon, je savais que mon compte était bon, mais son compte à lui n'était pas encore tout à fait bon. Voilà que j'arrive en faisant un tout petit tour pour rentrer de nouveau de l'endroit duquel j'étais parti, voilà que j'arrive sur une route sur laquelle je n'étais pas prioritaire. et que je grille la priorité, manque de peau, une voiture venait. Si bien que mon moniteur à côté, il a dû piler. Bon, là, j'étais sûr de chez sûr que c'en était fini pour moi. Mais pour lui, c'était encore pas fini. Voilà qu'en rentrant, il y avait devant moi un camion poubelle. Une ligne continue. Et je me suis dit, tant qu'à faire, au point où j'en suis, voilà que, alors je ne sais pas si je maîtrisais très bien ma voiture, en tout cas le côté de la route, j'avais du mal. Voilà que je me mets à dépasser le camion poubelle, qui, je vous le rappelle, circulait à côté d'une ligne continue, et en face venait un vélo. J'ai failli, pauvre vélo, me prendre et le vélo et le cycliste. Je crois que le moniteur était blanc. Quand nous sommes arrivés, il était blanc. Il se maîtrisait pour ne pas me lancer la feuille de refus de permis à la figure. Hein. Ça, c'est le premier bon souvenir que j'ai eu de mon permis de conduire. Bien sûr, pour ceux qui en doutent encore, j'ai été recalé. Alors, de la même manière que vous devez vous maîtriser et connaître le code de la route pour aller d'un endroit à un autre, de la même manière, lorsque vous rencontrez, connaissez Dieu, eh bien, il vous permet de recevoir cette maîtrise qui vous permet, eh bien, de suivre ce que dit la parole de Dieu. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, il est si difficile de se maîtriser. Voyez-vous, lorsque Dieu a créé Adam et Ève et que tous deux se sont trouvés dans le jardin d'Éden, il y a eu pour eux un interdit. Cet interdit disait, de la part de Dieu, tu peux toucher à tous les fruits des arbres qui se trouvent dans le jardin dans lequel je t'ai placé, mais tu ne dois pas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève sont arrivés devant cet arbre et ils virent que le fruit était bon à manger et beau à voir. Alors je ne sais pas de quel fruit il s'agissait. Hein, souvent, on le représente par une pomme. Dans la Bible, ce n'est pas cité pomme. Mais vous pouvez mettre le fruit que vous voulez, celui que vous préférez. Mais pendant un moment, probablement que Ève a dû le regarder, le convoiter. Et puis, elle a dû essayer de se maîtriser pour ne pas manger le fruit. Je vous rappelle que sa nature n'est peut-être encore pas une nature de pécheresse. Si bien qu'elle avait la liberté de dire non et la force de se maîtriser pour ne pas toucher à ce fruit. Mais voilà qu'elle mange ce fruit. Et dans la parole de Dieu, il est dit que quand Dieu créa l'homme, il le créa esprit, âme et corps. Autrement dit, le but de l'homme, le but de la femme, était d'adorer Dieu, d'aimer Dieu, d'avoir une communion avec Dieu. Mais voilà qu'après avoir mangé de ce fruit défendu, après ne pas s'être maîtrisé, avoir désobéi à Dieu, il est dit que l'ordre dans lequel Dieu avait créé l'homme, esprit, âme et corps, a été changé et est devenu corps, âme et esprit. L'homme est devenu esclave d'un mauvais maître parce qu'il a désobéi à Dieu. Et ce mauvais maître, eh bien, c'est l'ennemi de nos âmes. C'est notre corps, c'est notre chair. Alors, laissez-moi vous donner quelques conséquences de manque de maîtrise de soi. Tout d'abord, je dirais que le manque de maîtrise de soi se traduit dans nos actes. Je rencontrais encore la semaine dernière un jeune homme qui me disait « Écoute, je suis dans la drogue, je bois de l'alcool et je n'arrive pas à me maîtriser. Dès que je vois un bistrot, dès que je vois un endroit dans lequel on vend de l'alcool, eh bien je suis obligé de m'arrêter et de rentrer dans ce bistrot pour boire jusqu'à n'en plus pouvoir. » Et il y a un terme qui revenait souvent dans ce qu'il disait, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Et combien d'hommes et de femmes, parce qu'ils suivent de mauvais maîtres, hein, n'ont plus la capacité de se maîtriser face au péché qui les rend esclaves. C'est plus fort que moi. Je regardais encore l'autre jour la cassette du témoignage de ce jeune homme qui, très jeune, lorsqu'il marchait dans la rue, c'était aux États-Unis, voyait des photos de publicité qui représentaient des femmes à moitié ou entièrement dévêtues. Et puis ces pensées ont commencé à le travailler. Et petit à petit, il avait toujours ces images en lui. Il n'est plus arrivé, parce qu'il a couvé ses pensées, à se maîtriser. Alors il a eu besoin de plus dans ce domaine-là. Il est allé dans des bureaux de tabac et il a commencé à acheter des livres impurs. Et il les lisait, il s'en nourrissait, il nourrissait ses pensées. Mais le péché s'aggravant, il avait toujours besoin de plus, il est devenu insatisfait. Et il dira, eh bien, après avoir lu ces livres, j'ai eu besoin de regarder des films. Et après, les films ne suffisaient plus. J'ai eu besoin d'aller pour voir des prostituées. Mais le péché le poursuivait. Et plus il plongeait dans la profondeur du péché, moins il arrivait par rapport à ce péché à se maîtriser. Et cet homme dira, à la fin, non seulement il me fallait trouver des prostituées, mais après chaque relation avec ces prostituées, eh bien, je devais les tuer. Cet homme donnait son témoignage sur une cassette vidéo qui avait été enregistrée alors qu'il devait passer dans le couloir de la mort, sur la chaise électrique. Cet homme confessait 23 meurtres et il dira la chose suivante. Je demande pardon aux parents et aux familles que j'ai blessées et meurtries parce que je n'ai à un moment de ma vie pas su maîtriser et que j'ai servi un mauvais maître. Je demande pardon à la famille. Je demande pardon à Dieu de ce que j'ai fait. Il dira, je mérite la peine de mort. Et ce n'est que justice. Mais il dira également, j'accuse la société d'être en partie responsable du fait que je n'ai pas pu me maîtriser, parce qu'elle a affiché des images qui ont été le démarrage d'un engrenage dans le péché, dans la prostitution et dans le meurtre. Ne pas servir Dieu, c'est risqué, même si on n'en arrive pas à ce point-là, eh bien de rentrer dans l'engrenage du péché dans lequel vous risquez d'être esclave. Le manque de maîtrise peut se traduire également dans nos pensées. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le manque de maîtrise sur nos pensées, puisque ce sujet a été très bien travaillé dans les cellules. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire à tous ceux qui n'appartiennent pas à des cellules, allez dans les cellules, allez-y. Il y a d'excellents travaux et une excellente communion fraternelle qui y est développée. Profitez pour y aller, retrouvez les frères et sœurs et travaillez des thèmes tels celui qui a été travaillé, maîtrisez vos pensées. Je lirai juste un passage par rapport aux pensées qui dit ceci dans Matthieu chapitre 9 verset 4. Dans la version français courant, il est dit « Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, commettre l'adultère, vivre dans l'immoralité, voler, prononcer de faux témoignages et dire du mal des autres. » La racine du péché, c'est nos pensées. C'est du cœur que viennent, eh bien, le péché, les mauvaises pensées. Et lorsque les mauvaises pensées sont couvées, alors les actes derrière, très vite, arrivent. Et lorsque les actes sont là, alors il y a un engrenage qui nous entraîne toujours plus profondément, comme je le disais tout à l'heure, nos pensées. Ça me rappelle aussi un témoignage, je pense déjà avoir eu l'occasion également de le raconter. Un soir, Christian prêchait ici. J'étais assis au milieu de la salle. Puis pendant qu'il prêche, d'un coup, une pensée qui me vient. Elle disait ceci, après le culte, tu iras à la gare et tu verras des prostituées. J'ai chassé la pensée. Je me suis dit, ça ne peut pas venir de Dieu. Donc je me suis opposé à cette pensée. Mais constamment, cette pensée me revenait pendant que Christian prêchait. Alors je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Déjà, je le dis pas à mon épouse. Hein. Sinon, elle risque de manquer de maîtrise de soi, puis je la comprendrai. Hein. Alors, je me suis dit, bon, je le dis à personne, je prends ma voiture et je me dirige vers la gare. Finalement, qu'est-ce que je risque? Que d'avoir l'air bête avec moi-même, hein? Et puis, je me dirige vers la gare. Et en allant vers la gare, une femme qui faisait du stop. Je me dis, tant que j'y suis, il était 22h30, 23h, hop, je m'arrête, je la prends, j'emmène avec. Je dis, bonjour madame, où est-ce que je peux vous emmener? Elle me dit, écoutez, je vais à la gare, est-ce que vous pourriez m'y emmener? Je dis, oui, pas de problème. Et puis en discutant avec elle, il s'avère dans ce qu'elle me disait que cette femme elle-même était une prostituée. Et alors je commence à lui témoigner, à lui parler du Seigneur. Et cette femme me dira la chose suivante, elle me dira qu'elle connaît très bien un jeune homme qui a été touché par les Écritures, duquel elle était dans le temps la copine, et elle avait vu au travers de la vie de ce jeune homme la puissance de Dieu se manifester. Ce jeune homme était un ancien toxicomane qui, ayant connu le Seigneur, a été libéré de son péché. Et peut aujourd'hui se maîtriser, on peut lui mettre de la drogue devant les yeux, aucun problème. Et ce jeune homme a été pour cette femme comme un témoignage. Et j'ai alors pu, à ce moment-là, lui rappeler que Dieu l'aimait, que Dieu la cherchait, et que si Dieu avait touché son ex-copain et l'avait sorti du monde de la drogue, il avait également la capacité de faire quelque chose pour cette jeune femme. Amen. Maîtrisons nos pensées, mais laissons également, eh bien, Dieu diriger nos pensées selon sa volonté à lui. Et puis le manque de maîtrise se traduit également dans nos paroles. Alors je sais que vous tous qui êtes présents ici, vous ne vous mettez jamais en colère. Je parle surtout de moi, hein. Je sais que vous êtes toujours très calme et que vous maîtrisez toujours toutes les paroles que vous disiez, que vous dites, pardon. Oh, il n'y en a pas beaucoup qui disent oui, hein. J'entends pas beaucoup de amen, hein. Mais c'est vrai que très vite, on peut manquer de maîtrise dans notre manière de nous exprimer. On peut se mettre en colère. On peut dire des paroles qui finalement, ou être en colère, et finalement pas seulement le montrer dans l'intonation de la voix, mais dans les sous-entendus de ce que l'on dit à celui qui est à côté de nous. Et qui peut-être nous énerve. On peut être blessant. Vous savez, les paroles qui sont dites parce qu'on n'arrive pas à maîtriser sa langue peuvent être comme des flèches empoisonnées qui viennent blesser des cœurs et les meurtrir. Combien de couples j'ai vu se séparer juste à cause d'échanges de paroles blessantes, reblessantes, qui meurtrissent les cœurs, qui détruisent les vies. Oui, manquer de maîtrise dans nos paroles, au travers de nos colères, au travers de nos manières de parler qui peuvent être ironiques ou remplies de sous-entendus. J'aimerais peut-être passer au deuxième point et rebondir sur la colère. Et j'aimerais dire que finalement, celui seul qui peut nous permettre de nous maîtriser, c'est la personne de Jésus par son esprit. Et lorsque nous invitons l'esprit de Jésus, qui lui a été parfait en tout point dans sa maîtrise, alors nous recevons par l'esprit de Dieu la capacité, la force et la volonté de nous maîtriser là où humainement nous ne sommes pas capables de nous maîtriser. Amen. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, en particulier le Nouveau Testament, vous voyez que fréquemment Jésus se mettait en colère. Alors ça peut sembler étonnant de Jésus rempli d'amour, trouver dans sa parole qu'il peut se mettre en colère. Eh bien j'aimerais vous dire que finalement Jésus manifestait son amour de deux manières. La première manière, il aimait le bien. Il aimait les gens, il avait compassion d'eux. La deuxième manière qui permettait à Jésus de manifester son amour, c'est qu'il avait la haine du péché et de tout ce qui entourait le péché. Et lorsque vous regardez les raisons pour lesquelles Jésus se mettait en colère, Vous découvrez que Jésus se mettait en colère face à ceux qui empêchaient des vies de venir et de s'approcher de Jésus. À 20 reprises dans le Nouveau Testament, il nous est parlé d'hypocrite. Et chaque fois qu'il nous est parlé d'hypocrite, c'est Jésus qui le disait. Et chaque fois que Jésus parlait d'hypocrite, c'était suivi d'une, je dirais, d'une colère, d'une sainte colère, ou alors d'une indignation. Jésus était indigné et en colère face à ces hypocrites qui savaient, mais qui ne laissaient pas ou ne voulaient pas laisser s'approcher les gens de lui. Et pour ces raisons-là, je crois que nous pouvons également nous mettre dans de saintes colères. Voyez-vous, Jésus, c'était pas, dans le terme jeune, on pourrait dire une chouchoute. Jésus, c'était pas un, excusez-moi du terme, j'ai envie de dire, Jésus n'était pas une femmelette. Jésus était un homme, un vrai. Et Jésus, parce qu'il était homme, eh bien, savait également se mettre en colère face à l'injustice. Autant il savait aimer, autant parce qu'il aimait les âmes, il se mettait en colère. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que l'un n'est pas indissociable de l'autre. Plusieurs exemples. Il avait un regard de compassion sur Lazare, le pauvre. Un regard rempli d'amour. Mais il se dirigeait avec sévérité auprès du mauvais riche. Jésus plaint les veuves qui étaient dépouillées de leurs biens. Mais il était en colère et dénonçait ceux qui exploitaient les faiblesses des veuves. Jésus aimait cet homme qui était malade depuis 38 ans. Il aimait, il avait compassion de lui. Mais il était en colère contre ces pharisiens qui, parce que Jésus l'a guéri, le jour du sabbat le lui reprochaient. Jésus aimait et était rempli de compassion et de tristesse pour cet homme qui avait été agressé par les brigands et laissé pour mort, nu, dépouillé, appauvri, à côté du chemin. Mais il était en colère contre ces religieux qui passaient devant cet homme et qui le laissaient là coucher. Jésus aimait laisser venir à lui les petits enfants, les bénir et les serrer contre ses bras. Mais il était en colère contre les disciples qui empêchaient les enfants de venir à lui. Jésus, parce qu'il aimait son Père, aimait également le temple qui se trouvait à Jérusalem et qui représentait quelque part la présence d'un Dieu saint, un Père qu'il aimait. Mais Jésus était en colère contre les vendeurs, contre les changeurs, contre ceux qui ne respectaient pas la présence de Dieu dans ce temple. La colère de Dieu montre également combien il aimait ceux qui venaient à lui et combien il ne voulait pas que les pharisiens, les hypocrites, l'en empêchent. Voyez-vous, je parlais l'autre jour d'une petite fille qui se trouve dans le quartier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mardis de cela, une petite fille de 9 ans qui s'est jetée par le 6e étage. Et en discutant avec les enfants du quartier, en discutant avec des parents, des adultes qui étaient là, il y a eu là l'écho de cette petite fille qui est revenue et qui disait que finalement cette petite fille ne s'est pas jetée ou n'est pas tombée accidentellement de son balcon, mais qu'elle s'est suicidée, 9 ans. Et des copines qui étaient en classe avec elle me disaient la chose suivante. C'est l'écho de plusieurs enfants qui sont venus différemment me voir. Hein. Ils disaient ceci. Elle avait un mauvais bulletin. Et son père, qui avait du mal à se maîtriser et qui rentrait dans des colères froides, qui était séparé de sa mère, mais qui rentrait de temps en temps à la maison, régulièrement, il était violent avec sa fille. Et lui dira la chose suivante, si tu rentres avec un mauvais bulletin, tu verras ce que tu verras. Et cette fille est rentrée avec un mauvais bulletin. Elle l'a signé elle-même. tellement elle avait peur. Elle l'a ramenée à l'école. Mais constamment elle disait à ses copines de classe, je vais m'ôter la vie. J'ai trop peur de cet homme qui est mon père et qui me fait tant de mal. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est jetée par la fenêtre. Pourquoi ? Simplement à cause de cet homme qui manquait de maîtrise. Et moi, quand j'entends ça, excusez-moi, mais j'ai envie de me mettre en colère. En colère pas forcément contre cet homme, mais en colère contre ce péché qui tenait cet homme captif et des conséquences qu'a eu ce péché. Dimanche, pour la première fois, on a emmené un petit, Stéphane, 10 ans. Ce garçon nous dira la chose suivante. Il est venu pour la première fois. Il me dit, vois-tu, je ne suis pas heureux dans ma famille. Mon père m'a quitté, il a quitté le domicile conjugal. Il aurait dû me chercher au mois de juillet et au mois d'août. Et j'étais tellement content de pouvoir partir avec lui, tellement content de le revoir et d'aller en vacances avec lui. Non seulement il n'est pas venu me chercher, mais il n'a même pas donné signe de vie, même pas un coup de fil, rien. Moi, quand j'entends ça, j'ai envie de me mettre en colère. Je lisais l'autre jour un article dans le journal dans lequel il était dit qu'en Espagne était votée une loi qui permettait non seulement aux homosexuels de se marier, mais qui leur permettait également d'adopter des enfants. Quand j'entends ça, j'ai envie de me mettre en colère contre ces lois, en colère contre l'hypocrisie. L'autre jour, Christian amènera un livre au bureau. Un livre qui était distribué dans les lycées et dans les collèges et dans lequel il favorisait les relations amoureuses entre les jeunes dans les écoles en leur donnant des moyens de contraception et en favorisant également la pilule du lendemain qui est une pilule abortive. Quand j'entends ça, j'ai envie de me mettre en colère. Et voyez-vous, lorsque Jésus a découvert ces vendeurs qui étaient là devant le temple, sa colère a provoqué un acte. Jésus a fait un fouet. Il l'a tressé, il l'a fabriqué. Il est allé et il a chassé les vendeurs de ce temple. Qui pourrait dire de Jésus aujourd'hui que parce qu'il a fait cela, il manquait de maîtrise ? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il a manqué de maîtrise ? Est-ce que quelqu'un peut le dire ? Jésus était parfait dans sa maîtrise. En faisant cet acte, il a simplement montré qu'être chrétien, ce n'est pas forcément être dans un coin et accepter tout ce que l'on vit, mais c'est se mettre en colère contre des situations qui empêchent les âmes de venir à Jésus, de le découvrir et d'être libres de leurs péchés. Et lorsque je lisais cette histoire, je me suis dit, moi, je suis en train de faire un fouet. Et sur ce fouet, il y a marqué « quartier libre ». Et chaque tresse de ce fouet, je suis en train, avec toute l'équipe qui travaille, de le fabriquer patiemment. Une tresse, c'est les jeux qui nous permettent de rentrer en contact avec les enfants et les familles. Une tresse, c'est les histoires qui leur apportent des valeurs bibliques, qui leur permettent de changer de vie et de réaliser qu'il y a une espérance. Une tresse de ce fouet, c'est l'intercession qui nous permet d'apporter ces familles et ces enfants devant le trône de la grâce. J'ai d'autres tresses à mettre à ce fouet. Elles sont en réserve, mais je veux les mettre parce que je veux que ce fouet permette aux hypocrites, aux pharisiens, à ceux qui veulent empêcher ces enfants et ces familles de venir à Jésus, d'être chassés afin que les enfants puissent librement, que les familles puissent librement venir à Jésus. Amen. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Vous avez le droit de vous mettre dans de saintes colères. Amen. Vous avez le droit, je le répète haut et fort, si vous êtes chrétien, de vous mettre dans, je précise, j'ai mis le cadre ce soir, dans de saintes colères. Amen. Oui, Jésus avait une parfaite maîtrise de lui-même. Il ne se mettait pas non plus en colère quand on le bafouait. Vous savez, quand il s'agissait des autres, il se mettait en colère. Mais quand on le bafouait, lui, il savait se maîtriser. Il est marqué dans la parole de Dieu, injurié, il ne rendait pas d'injures, maltraité, il ne faisait pas de menaces. Regardez et observez la parfaite maîtrise de soi de Jésus lorsqu'il est allé vers Golgotha, lorsqu'il est monté sur la croix. Pilate, Hérode, on dit toutes sortes de mensonges sur lui. Il ne s'est pas justifié, il s'est tu. Lorsqu'on a mis la couronne d'épines sur sa tête, il s'est tu. Lorsqu'on s'est moqué de lui, lorsqu'on l'a injurié, il s'est tu. Lorsque les fouets se sont abattus sur son dos, Jésus ne s'est pas mis en colère, il s'est tu. Lorsque Jésus a été cloué sur la croix, pas l'once d'une colère. Et quant au summum de sa souffrance physique sur la croix, son père l'a abandonné. Jésus s'est tu. Et la seule parole qui montre combien il a été parfait dans sa maîtrise a été « Père, pardonneur » parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus, par sa maîtrise, parce qu'il a accepté librement d'aller jusqu'au bout, a porté tous les péchés de chacun d'entre nous qui finalement sont le résultat du service d'un mauvais maître, d'une manque de maîtrise, de péché conséquence au manque de maîtrise de nous-mêmes. Et voyez-vous, Jésus a été d'autant plus admirable. Qu'est-ce que je l'aime, ce Jésus ! Il a été d'autant plus admirable dans ce qu'il a fait. Et sa maîtrise a été d'autant plus merveilleuse que, premièrement, il ne méritait pas ce qu'il souffrait. Il a souffert pour nous, pour moi, pour vous. Et que, deuxièmement, et ça a donné du poids à sa maîtrise, c'est qu'à n'importe quel moment, Jésus aurait pu appeler des anges. Il aurait pu demander aux anges, à son Père même, de venir à son secours. Et il aurait certainement eu raison de le faire. Mais parce qu'il nous a aimés jusqu'au bout, il s'est maîtrisé jusqu'au bout. Et telle une brebis muette que l'on mène à la boucherie, il s'est laissé mener sur la croix afin que nos péchés, conséquences de nos manques de maîtrise, soient cloués sur la croix. Et que nous puissions recevoir de sa part le pardon. La question que je me pose, c'est où est-ce que je me serais arrêté, moi, si j'avais été à la place de Jésus ? Quand on me bafoue, ou qu'on dit quelque chose qui n'est pas vrai, est-ce que mon manque de maîtrise se tait, comme Jésus l'a fait ? Ou est-ce que j'essaye de me justifier, au risque peut-être d'accuser, de descendre l'autre qui m'accuse ? Est-ce que, eh bien, lorsque peut-être il m'arrive d'avoir mal à cause de choses que je peux vivre parce que j'aime Jésus de tout mon cœur, comment je réagis ? Jésus s'est tu jusqu'au bout. Recevons de lui cette maîtrise qui nous permettra également de nous taire peut-être dans les moments les plus difficiles. Je serai plus long, je voudrais juste dire également, j'ai trouvé dans la parole de Dieu un autre passage où on voit la maîtrise de Jésus. Lorsque dans Jean chapitre 4 verset 6, Jésus allait en direction de la Samarie. Et voilà qu'il trouve là une femme qui est devant son puits. Et il est dit de Jésus qu'il était fatigué, exténué, il avait faim, il avait soif. Et Jésus voit cette femme, cette Samaritaine. Il lui demande de prendre de l'eau pour lui. Mais voilà que Jésus, parce que c'était dans ses tripes, eh bien, avait ce désir de lui témoigner, de parler. Et il commence à lui donner une parole de connaissance. Il commence à lui parler, à témoigner, à lui dire que si elle boit de cette eau, elle aura encore soif. Jésus n'avait pas encore bu, pas encore mangé et ne s'était pas encore reposé. Il avait d'ailleurs envoyé ses disciples pour chercher à manger. Mais ce qui pour lui était important, plus que de nourrir son corps, plus que de lui donner à boire ou de se reposer, c'était le salut de cette âme, la Samaritaine. Et Jésus a maîtrisé le besoin de son corps pour donner priorité au désir que cette femme soit sauvée. Cette femme est allée chercher ses compatriotes. Les disciples sont arrivés, ils lui ont emmené à manger. Il n'avait encore ni bu, ni mangé, ni ne s'était reposé. Savez-vous ce que Jésus répond aux disciples qui viennent avec de quoi manger? Il leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Amen. Cette femme est revenue, Jésus a prêché, les personnes de Samarie ont été touchées par le témoignage de Jésus. Amen. Savons-nous nous maîtriser quand il s'agit de gagner des âmes, de toucher des âmes, de chercher des perdus, de leur parler de ce merveilleux Sauveur? Jésus savait parfaitement se maîtriser dans son corps, dans ses attitudes, dans ses paroles, dans sa manière de fonctionner. J'aimerais terminer simplement en disant à chacun d'entre vous que Jésus veut devenir le maître de votre vie. Je disais au départ que lorsque nous servons un faux maître, nous avons toutes les chances d'être esclaves de ce qu'il nous demande de faire, esclaves du péché, sous toutes ses formes, quelles qu'elles soient. Mais lorsque Jésus devient ce maître merveilleux, qui vient dans nos vies, alors nos vies sont changées et transformées. Il y a peut-être quelqu'un qui est là ce soir. Et tu as déjà utilisé ces termes dans lesquels tu as dit « Moi, je suis dans le péché, mais c'est plus fort que moi. J'ai essayé de m'arrêter. J'ai fait des cures, ma famille m'a aidé. J'étais chez des psychiatres, j'ai tout essayé. Je n'y suis pas arrivé. C'est plus fort que moi. » J'aimerais te dire, il y a une solution pour toi. Elle s'appelle Jésus. Il veut devenir le maître de ta vie. Et si tu le choisis comme maître, eh bien il va venir en toi avec tout ce caractère, de cette capacité de se maîtriser. Et cette capacité, il va te la donner afin que tu ne sois plus esclave du péché, mais que par Jésus, tu en sois réellement affranchi. Amen. Et puis j'aimerais peut-être dire aux chrétiens qui sont là, tu appartiens à Dieu, mais tu sais qu'il y a des domaines dans ta vie qui t'empêchent d'avancer avec lui, qui t'empêche de sanctifier ta vie, qui t'empêche d'aller plus loin. Il y a peut-être des domaines dans ta vie où ton corps est encore le maître de ta vie et où parce qu'il est le maître, il t'empêche de servir pleinement le Seigneur et de t'épanouir dans ce service. J'aimerais te dire, Jésus, de la même manière, veut permettre que l'Esprit de Dieu grandisse en toi ce soir. Et quand l'Esprit de Dieu vient, alors il te donne cette maîtrise, il te libère de ce qui te rend captif et t'empêche de servir le Seigneur. Romains chapitre 8, verset 2, il est dit, la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 4, il est dit que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et dans l'honneur sans se laisser dominer par des passions déréglées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alors ce soir, qui que vous soyez, quelle que soit votre difficulté, dites oui à Jésus. Il va non seulement vous libérer du péché qui vous tient captif et vous empêche de vous approcher de lui, mais plus que cela, par sa nature, lui qui a été parfaitement maître de tout ce qu'il a dit, pensé et fait, il vous donnera sa maîtrise et vous rendra capable, même s'il y a un effort à fournir, qui est le signe de votre propre volonté, il vous rendra capable, lorsque le péché viendra, de lui dire non et de vous maîtriser. Amen. Je termine simplement. Lorsque vous serez tenté, lorsque la tentation viendra, prenez simplement le temps un instant de vous maîtriser et de dire, face à ce que je vis là, que ferait Jésus à ma place? Face à ce que je vis là, que penserait Jésus à ma place? Face à la situation que je vis, que dirait celui qui est le roi et le maître de la maîtrise de soi? Que dirait-il à ma place? Et je suis persuadé que si vous vous maîtrisez suffisamment, juste pour vous poser cette question face à la difficulté que vous vivez, vous aurez alors non plus le regard de votre chair, mais vous aurez le regard de Jésus en vous. Et alors Jésus vous permettra de vous maîtriser et d'être plus que vainqueur.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.